On va ouvrir la parole de Dieu ensemble, d'accord? Ça va? Et on va s'attendre à être nourri, à ce que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre en profondeur dans nos vies, à travers sa parole. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une fête spéciale? Je pose cette question. Je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux d'Israël qui sont là au milieu de nous. Et je vous pose cette question. Vous aurez la réponse très rapidement sur les amoureux d'Israël. Une fête spéciale en Israël où on passe une semaine sous des tentes. Sukkot. Sukkot, c'est la fête spéciale en Israël qui est fêtée encore aujourd'hui qui se fête depuis si longtemps, qui veut dire littéralement cabane ou hutte en hébreu. Et on la fête encore aujourd'hui, cette fête. Et alors qu'ils fêtent cette fête-là, certains se mettent sur des tentes encore, sur le toit de leur maison, etc. Et durant cette fête qui a lieu après l'été, on se réjouissait des récoltes dans les champs. À la base, c'était ça, on se réjouissait des récoltes dans les champs. Mais Dieu leur avait aussi demandé de célébrer cette fête pour leur rappeler leur délivrance de l'esclavage de leur ancienne vie en Égypte. L'esclavage en Égypte et tout leur pèlerinage dans le désert. Après cette période-là, pendant 40 années, hein, on connaît l'histoire, sous des tentes. Dieu lui-même habitait sous une tente, le tabernacle était une tente. Et il se rappelait de cela pendant cette fête. J'ai intitulé ce message ce soir, Si quelqu'un a soif. Et le peuple d'Israël, le fait de passer une semaine comme ça, sous des tentes, leur rappelait aussi qu'il y a autre chose dans cette vie physique et matérielle, sur cette terre dans laquelle nous sommes baignés. Il y a autre chose que cette vie-là. Il y a autre chose que ce que j'amasse ici sur cette terre. Cette maison en dur, la porte que j'ouvre dans ma maison, les meubles, l'ameublement, la vaisselle que j'ai dans ma maison. Il y a autre chose que ces choses matérielles, c'est bien. Et puis aujourd'hui, on pourrait allonger la liste bien plus encore que la belle voiture que j'ai, que toutes les choses que je peux acquérir ici. Il y a autre chose que ça. Ça, ce n'est pas la vie. C'est de loin pas que ça, la vie. Il y a autre chose de plus profond. Il y a autre chose derrière tout ça. Et en vivant à nouveau durant une semaine dans des tentes, avec moins de confort que dans leur maison en dur, ils se rappelaient que leur espérance, elle n'était pas ici-bas. Leur espérance, elle était en Dieu et non dans les choses de ce monde. Leur confiance devait être en Dieu avant tout. Et ce message n'a pas changé. Ce message n'a pas changé aujourd'hui encore. Nous avons tellement besoin, d'autant plus j'ai envie de dire, besoin, tout comme Israël, de nous rappeler que notre espérance, notre trésor n'est pas de ce monde. Notre trésor n'est pas de ce monde. Tellement pas. On peut si vite le perdre de vue. Dans ce monde matérialiste, de consommation effrénée, de course à la consommation. En permanence. Des fois, je me dis, je pense qu'on ne se rend même plus vraiment compte à quel point on baigne là-dedans, à quel point on est bombardé en permanence par du marketing tout le temps. Et encore dernièrement, ça fait un peu scandale en France, je ne sais pas si ici aussi, mais comment ça s'appelle le screenflation? Comment ils appellent ça, le truc où ils te mettent moins de quantité dans un contenant, dans le supermarché? Tu vois ce que je veux dire? Ils te mettent moins de quantité, ils baissent ça, mais ils augmentent le prix. Ils augmentent le prix, c'est l'inflation, on n'y peut rien, on augmente le prix, soit ce qu'ils ne te disent pas. Shrinkflation, c'est ça. On diminue aussi la quantité dans le truc, quoi. C'est fou dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Par contre, tu vas avoir des publicités à fond pour consommer le produit, quoi. En permanence, on est baigné dans ce monde-là. Je veux dire, aujourd'hui, plus que n'importe. Et c'est devenu presque normal parce qu'on est tellement bombardé par ça. Nous baignons dans ce monde-là. On n'est plus choqué de ces choses-là. On n'est plus offusqué de ces choses-là. Et parce qu'on baigne dans ce monde-là. À cette époque-là, il n'y avait pas ces choses-là, et pourtant ils avaient réalisé, Dieu avait mis cette fête en place, et ils vivaient pleinement cette fête parce qu'ils voulaient aussi, à travers cette fête-là, se rappeler qu'il y a autre chose que les matériels dans ce monde-là. Waouh! Et Cette parole de Jésus à ses disciples résonne encore aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 6, verset 19. Il dira ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, Matthieu 6, 19, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Waouh ! J'aimerais nous poser cette question à chacun d'entre nous, tu réponds dans ton fort intérieur. Alors que nous vivons dans ce monde occidental, ici en Suisse, en France, où la recherche de l'aisance matérielle est la norme, vrai ou pas vrai ? J'ai raison ou j'ai raison ? À choix. Où se trouve notre trésor ? Où se trouve notre trésor ? Alors que nous sommes dans une saison, dans une période de l'histoire de l'humanité où le monde est ébranlé. Et ébranlé, cette génération, on a construit autour, plus que jamais, autour de notre vie, nos situations, autour de la consommation, autour du bien-être matériel. On ne veut plus vieillir, on se met toutes sortes de produits, on se botox, Alors ça c'est déjà qu'on a atteint un certain niveau, mais c'est toutes sortes de crèmes de jour, de nuit, de demi-jour, de midi, de 14 heures, des crèmes de partout pour essayer de moins rider. C'est fou, c'est qu'après on se pique le front, on se pique. Et pas que les femmes, les hommes le font aujourd'hui maintenant. On se met des implants de silicone un peu partout. C'est fou pour essayer de ralentir le vieillissement. C'est juste incroyable. Des hommes partent en Turquie, on fait des forfaits aujourd'hui en Turquie pour t'implanter des cheveux. C'est pas grave si quelqu'un l'a fait ici parmi nous. Sois béni, mon frère, sois béni. Non, mais ils te font des forfaits aujourd'hui. Ils te font des forfaits, tu payes 2000 euros, hop, billet d'avion compris, hospitalisation, clac, 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 ils te plantent, ils te font des petits trucs, c'est des petites chirurgies, hein, mineures, clac, clac, tu ressors de là. Je connais quelqu'un qui l'a fait, et que le Seigneur le bénisse, il n'y a pas de souci, les chrétiens, ils aiment le Seigneur, c'est son choix. Mais c'est fou, on vit dans un monde aujourd'hui où on ne veut plus vieillir, on vit dans un monde où c'est fou, le monde dans lequel on vit est chamboulé. Et aujourd'hui, cette question... Où se trouve ton trésor ? Où se trouve notre trésor ? Cette question, aujourd'hui, elle est plus pertinente que jamais. Elle est plus pertinente que jamais parce que beaucoup, en ce moment, réalisent que tout ce qu'on a pu accumuler, avec les chamboulements qu'on vit, le Covid qu'on a traversé, les chamboulements qu'on a pu traverser, les guerres, les inflations, tout ça, on vit vraiment dans un monde où accumuler ne fait pas le poids face à un monde ébranlé, déstabilisé autour de nous. On commence à se dire, mais attends, tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui nous démontre qu'on a besoin, mes amis, de placer notre confiance, d'investir ailleurs que dans les biens de ce monde. Ailleurs que dans les biens de ce monde. Qu'aujourd'hui, rien n'est acquis. Aujourd'hui, rien n'est acquis. N'importe où dans le monde. Il y a des gens qui ont perdu des fortunes colossales. Des gens qui pensaient qu'ils pouvaient s'appuyer sur leur fortune. Et tout à coup, le Covid est arrivé. Et puis, ils ont dû fermer l'entreprise. Et puis, boum, du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Ils pensaient qu'ils étaient inébranlables. Et tout à coup, du jour au lendemain, tout est perdu, mes amis. Aujourd'hui, ici-bas, dans ce monde, il n'y a rien qui peut... Il n'y a rien. Tu penses que ta retraite, tu penses que tes fonds de placement, tu penses que tout peut s'écrouler. Je ne dis pas que ça va se passer, mais tout peut s'écrouler comme ça. Le monde peut être ébranlé. Une crise économique est là. Ça ne va pas pouvoir durer plus longtemps encore, le monde dans lequel on vit. Tout repose sur du sable, mes amis. C'est un château de cartes. Où est-ce qu'on met notre trésor, mes amis ? J'ai une bonne nouvelle. Ah, pasteur Mathieu, ça fait plaisir quand même, t'as une bonne nouvelle. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'était un peu lourd, hein ? D'accord ? Une bonne nouvelle, mes amis. Tout ce qu'on a, écoute bien ceci, tout ce qu'on investit, tout ce que tu as investi, ce que tu investiras dans le royaume de Dieu n'est pas atteint par la rouille. Quelqu'un dit amen ? n'est pas atteint par la rouille, mes amis. Quelle bonne nouvelle! Il existe un endroit où ce que tu investis, où ce que tu engranges n'est pas atteint par la rouille, que absolument personne ne peut te le voler, ne peut te dérober ces choses-là. Le voleur ne te les volera pas, c'est impossible. Personne ne peut percer ce trésor-là, personne ne peut le trouver, personne ne peut l'atteindre, personne ne peut détruire ce trésor-là, personne, c'est impossible. Pas besoin de traitement spécial, ruineux contre la rouille, le traitement a été fait une fois pour toutes à la croix. Alléluia, mes amis. Où se trouve ton trésor? Où se trouve mon trésor? C'est ce que les Israélites se demandaient, entre autres, durant cette fête de Soukhot. Regarde avec moi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, et au verset, à partir du verset 37, c'est le texte qui est le cœur de mon message ce soir. Alléluia. Jean 7, 37. Le dernier jour de la fête, on est dans Soukhot, le jour le plus solennel, Jésus se tint debout devant la foule et lança à pleine voix. Tu sais, c'est pas juste « ça va tout le monde, ça va, tout le monde m'écoute, vous êtes avec moi ». À pleine voix. Excusez-moi, je prêche à pleine voix aussi, hein. Ça va tout le monde. Que personne ne s'offusque. J'ai juste un feu qui brûle en moi pour Jésus. Je ne peux pas le garder. Il lança à pleine voix, imaginez-le, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. » Car l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui, car comme le dit l'Écriture, excusez-moi, j'ai loupé une ligne, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, c'est ça qu'il est en train de dire. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. D'autres affirmaient, c'est le Christ. Mais certains objectaient et disaient, le Christ pourrait-il venir de la Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu? Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Divisé à cause de lui. Ce n'est pas l'intention de Dieu, la division. Jamais de la vie. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Dieu est un Dieu de rassemblement, Dieu est un Dieu de construction, Dieu est un Dieu d'unité. Mes amis, ce récit se déroule durant cette fameuse fête de Soukhot à Jérusalem. Tous les Juifs montent à Jérusalem pour fêter cette fête. C'était une des trois grandes fêtes juives annuelles. Et ça convergeait de partout. Des gens mettaient, évidemment, ce n'était pas comme aujourd'hui, tu prends le train, tu prends le TGV, tu prends l'avion, tu prends la voiture. Non, il y avait des gens qui venaient de loin, ils mettaient plusieurs jours, plusieurs semaines, certains plusieurs mois, pour venir jusqu'à Jérusalem, pour venir fêter cette fête-là. C'était si important pour eux de se rassembler, de vivre l'unité ensemble, de célébrer l'Éternel ensemble, de se rappeler ensemble de ce qu'ils avaient traversé, de ce que Dieu leur avait traversé, qu'il avait été fidèle avec eux. Et alors que Jésus monte à Jérusalem pour cette fête, son ministère avait déjà porté beaucoup de fruits à ce moment-là de l'histoire. Des malades avaient déjà été guéris, de nombreux malades avaient déjà été guéris, des démoniaques avaient déjà été délivrés, des familles avaient été réconciliées, toutes sortes de choses merveilleuses et miraculeuses avaient déjà pris place autour de lui dans son ministère. Et en même temps, alors que toutes ces choses prenaient place et que le temps passait, plus le temps passait, plus l'irritation des pharisiens grandissait, qui cherchaient constamment un moyen de se saisir de lui, de l'arrêter, de le faire mourir, il montait cette colère, cette haine contre lui de plus en plus en parallèle. Et ce jour-là, comme d'autres jours, Jésus est en train dans le temple, est en train d'enseigner. Et son discours ne laisse personne indifférent. Personne n'est indifférent face au discours de Jésus à ce moment-là. Et parmi les pharisiens, bien sûr, qui s'irritent toujours plus contre Jésus, mais aussi dans la foule, des gens sont bousculés par le message de Jésus. Ils sont bousculés parce qu'il est en train de leur dire. Les gens se posent des questions. Et le texte qu'on vient de lire nous montre qu'il y a trois catégories de personnes qui se dessinent parmi la foule qui est là et qui est en train d'écouter Jésus. Et j'aimerais qu'on voit quelques instants ces trois catégories de personnes. Premièrement, il y a ceux qui se posent la question d'où il vient. D'où il vient, lui ? D'où il vient ? Il est là, il crie d'une voix forte, là, il harangue la foule comme ça. Et d'où il vient ? Il me semble qu'il vient de Galilée, lui. Moi, j'ai entendu parler il vient de Galilée, lui. Et en même temps, il se rappelle, ils connaissent les Écritures. Ils viennent là pour... C'est des Juifs, ils connaissent quand même les Écritures. Ils se rappellent que le Messie devait venir de Bethléem, selon la parole de Dieu, dans l'Écriture, de la descendance de David. Alors il se dit, mais lui, il vient de Galilée, apparemment. Apparemment, ils n'étaient pas au courant que Jésus était né à Bethléem et qu'il était de la descendance de David. Juste parce qu'il arrivait de Galilée. Ils ne le connaissaient pas, ils ne savaient pas. Ils s'imaginent, ils se font des films, comme des fois on se fait des films, hein. On en a fait même des expressions, la Bible ne fait pas le moine, on se fait des films un peu sur les gens des fois. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et puis, dans cette foule, il y a une deuxième catégorie de personnes. Il y a ceux qui disent qu'il est un prophète. Il y a ceux qui disent qu'il est un prophète. Littéralement, ils reconnaissent en lui quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Wow, c'est pas rien quand même. Quelqu'un qui dit des oracles, un grand homme, un prophète comme on a pu en avoir dans le passé, un Élie, un Nathan, un Jean-Baptiste, quoi. Wow, Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu plus grand que lui. Jésus lui-même a dit qu'il n'y a pas eu plus grand prophète que Jean-Baptiste. Wow, le mettre dans cette catégorie-là. Mais dans cette description, mes amis, il n'y a pas du tout la notion du Messie. Il n'y a pas du tout la notion de Messie, de celui qui est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité, pour sauver son peuple. Et puis, troisièmement, il y a une troisième catégorie, il y a ceux qui reconnaissent en lui le Christ. Littéralement, dans le grec du texte qu'on vient de lire de l'évangile de Jean, Christos, littéralement celui qui est oint, le Messie. Mes amis, que de perturbations face à Jésus. C'est fou quand même. Cette personne, elle laisse personne indifférent. Il n'y a pas que des gens qui sont là, « Oh ouais, Jésus, ouais. » Non. Il y a des clivages qui se passent. Ce n'est pas parce que c'était le Fils de Dieu que tout le monde s'est prosterné. Il y a des clivages qui se passent. Quand on se lève pour Dieu, avez-vous remarqué des fois, il n'y a pas que des gens qui sont à l'écoute et qui se prosternent et qui disent, « Ah ouais, moi aussi je donne ma vie. » Ça arrive, mais il y en a aussi, il y a que ça dérange. Que ça dérange profondément, que ça irrite. Waouh ! J'aimerais vous suggérer ce soir que les choses n'ont pas tellement changé aujourd'hui. Que lorsqu'il est question de Jésus, les choses n'ont pas tellement changé en fait. Il y a encore ces trois catégories de personnes. Il y en a qui se posent toujours la question de savoir si tout ça c'est bien réel. Moi, j'ai entendu, j'ai le catéchisme quand j'étais gamin. J'ai entendu les trucs de bondieuserie, là. Hein ? Est-ce que c'est vraiment réel, tout ça ? Hein ? Des doutes sur Dieu, qui sont là, dans leur cœur, dans leurs pensées. Et on leur enseigne toutes sortes de philosophies, on leur enseigne toutes sortes d'autres religions. On dirait que certaines religions, des fois, les plus abracadabrantes les unes que les autres, sont plus attirants que la simple vérité de l'évangile, des fois. Les gens sont capables de faire des trucs, là, des méditations de machin, des trucs de fou, là. Des trucs qui te disent, pourquoi tu fais ça ? C'est fou, c'est si simple, l'évangile. Hein ? C'est fou. Ce qui se passe autour d'eux les déstabilise. Pourquoi ? Alors, si Dieu existe, pourquoi les guerres ? Etc. Hein ? Ça les déstabilise. Leur manque de connaître Jésus est là. Ils ne connaissent pas Jésus, en fait. Ils ne connaissent pas. Ça les fait douter. Tout comme ces Juifs qui, apparemment, ne savaient pas que Jésus était bien de Bethléem, qu'il était descendant de David. Alors, on spécule, on doute. On observe avec scepticisme. Hein ? Et on spécule. Et on imagine. On imagine des choses. On se met à dire des trucs. On se met à dire des trucs sans fondement. Ces gens-là, mes amis, juste parce qu'ils n'ont pas Jésus dans, dans leur vie, sont comme des aveugles. Comme des aveugles. Ça les empêche de voir Jésus tel qu'il est. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de l'amour que Dieu a mis dans ta vie. Peut-être que tu en croises régulièrement des gens comme ça. Certainement. Ils ont besoin que tu brilles. Ils ont besoin que tu pries. Ils ont besoin que tu chérisses la présence de Dieu dans ta vie. On a vu ça ce matin. Ils ont besoin que tu la chérisses pour pouvoir déborder de lui. Waouh ! Tellement besoin. Et puis il y a encore aujourd'hui cette deuxième catégorie de personnes. Certains chrétiens aujourd'hui, écoutez bien ceci, considèrent encore Jésus comme un prophète. Ouais, non, pas moi, c'est... non, pasteur Mathieu, non. Quand même. Ah, je sais qui il est quand même. Hein. J'écoute bien les messages. Pasteur Gaël, pasteur Philippe, tout ça, j'écoute bien. Non, mais dans la vie du peuple d'Israël, le prophète apparaissait de temps en temps pour avertir le peuple, pour avertir le roi. Il donnait son oracle et puis on le respectait en tant que tel. On l'écoutait, on tendait l'oreille quand il parlait. C'était important d'écouter le prophète. Il parlait au nom de Dieu. Mais au fond, mes amis, sa vie ne changeait pas la vie du peuple. Il ne pouvait pas changer la vie. Il n'avait aucune puissance, aucun pouvoir en lui-même pour changer la vie du peuple. C'était simplement un messager. Lorsqu'il avait fini de donner son oracle, le peuple retournait à ses affaires, retournait à ses choses. Et l'histoire du peuple d'Israël nous montre que les moments où ils ont été changés, où ils se sont laissés transformer en profondeur, ont été épisodiques. Épisodiques pour retomber bien bas, juste après, si souvent. Vrai ou pas vrai ? C'est vrai. Il y a eu Sodome et Gomorre, bam. Il y a eu l'esclavage en Égypte, bam. Et il y a eu les 40 ans dans le désert, bam. Et il y a eu la royauté qui n'a pas apporté, on l'a évoqué ce matin, qui n'a pas apporté tellement de bonnes choses. Dieu avait dit non, vous ne ferez pas comme les autres nations alentour de vous. Samuel, essayez de dire non, faites-le pas, vous êtes fous quoi, faites-le pas. Et ça a fait tellement de déchirure jusqu'au schisme entre Israël au nord et puis Juda au sud, le schisme, le déchirement entre deux rois qui se sont pris la tête. Et qui se sont déchirés, qui se sont divisés. Et puis il y a la déportation à Babylone, 70 ans, j'ai failli rechuter. Il y a eu la déportation à Babylone. Il y a eu la déportation à Babylone, mes amis. À chaque fois, ça retombait si souvent. Mais parce que ça venait de l'extérieur. Parce que ça venait de l'extérieur et nous avons besoin d'un prophète qui venait parler de l'extérieur. Et nous avons besoin d'un changement à l'intérieur, mes amis. C'est à l'intérieur qu'on a besoin qu'il se passe quelque chose. Une réforme de cœur, une réforme de mentalité. On baigne trop dans ce monde, on se comporte trop comme le monde. Un changement de mentalité, un changement dans nos pensées, un changement dans nos aspirations, un changement dans nos désirs, dans notre volonté, dans nos valeurs. Un changement à l'intérieur. Mes amis, Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le Fils que Dieu a envoyé sur terre pour nous sauver, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Et pour vivre ces fameux fleuves d'eau vive dont on vient de lire, pour que ces fleuves de Dieu puissent se mettre à couler, donner, redonner la vie, vivifier notre être intérieur, c'est ce que j'aspire, mes amis. Je crie à Dieu tous les jours, Seigneur, tes fleuves d'eau vive, t'as dit que tu les donnais. Seigneur, j'en ai tellement besoin dans ma vie. Sinon, je déborde de quoi ? Si tu ne laisses pas Dieu remplir ta coupe, là, en quête de quoi tu vas déborder ? Tu vas déborder de quoi ? On doit déborder de nous-mêmes. Le gros ours, il va déborder. Il va mordre les gens autour de toi. Dès qu'il y a un truc qui te frustre, t'agresses. C'est ça qui se passe. Tu débordes de quoi ? Tu débordes que de ce dont tu es rempli, en fait. Ne pense pas que tu peux déborder de Jésus si tu ne passes pas de temps avec lui, si on ne se laisse pas remplir par lui. Et pourtant, Jésus, il a dit, regarde, si tu t'approches de moi, si quelqu'un a soif... Je te le donne et je te donne tout, je te donne gratuitement. Je te le donne, je coulerai dans ta vie, tu vas déborder, ça va être un truc de fou. Tu vas déborder de moi, tu vas déborder. Qu'est-ce qui se passe quand ça déborde ? C'est pas pour nous quand ça déborde, c'est pour les autres. D'accord ? Ce qu'il y a dedans, c'est pour toi. Ce qui déborde, c'est pour les autres. C'est pour les autres, c'est pour ceux de ton entourage. Et là, on se met à briller comme ces flambeaux de ce monde, dans cette génération perverse et corrompue. Là, on se met à briller, là, on se met à couler. Là, nos vies portent du fruit. Nos vies se mettent à avoir du poids spirituel, du poids pour l'éternité, mes amis. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ce dont nous aspirons? J'aspire à ça, Seigneur, de tout mon cœur. Alléluia. Ça va, vous êtes avec moi? On a besoin d'un changement à l'intérieur. On a besoin que le Saint-Esprit vienne nous renouveler. Alléluia. Qu'il vienne couler en nous. Qu'il vienne faire déborder nos vies. Et que ça rejaillisse partout. On a besoin de changer notre considération, mes amis, de Jésus prophète. Qui de temps en temps vient donner des oracles dans nos vies. Parce que tout à coup, j'ai besoin, ça ne va pas. En ce moment, j'ai des conflits au travail. Ah, Seigneur, je presse sur le bouton, viens m'aider. Hop, Jésus prophète, viens donner un oracle dans ma vie. Jésus, viens m'aider, viens me dire quelque chose. Hop, Jésus prophète. Puis après, merci Seigneur, ça va mieux. Non, aujourd'hui, ça allait mieux avec mon collègue de travail, tout ça. Maintenant, hop, je revis ma vie comme avant. Et puis, tout à coup, quand la prochaine tuile arrive, Seigneur, une parole, Seigneur, pourquoi t'es pas là avec moi? Pourquoi t'as laissé? Seigneur, presse le bouton, viens m'aider, Jésus prophète. On a besoin de changer notre considération de Jésus prophète à Jésus-Christ, Christos, le Messie, le Oint, le Seigneur de ma vie, mes amis. Celui qui est là dans tous les recoins de ma vie à chaque instant, qui fait partie de chaque recoin de mon cœur, de mes pensées, qui remplit mes valeurs. Il y a des choses que je choisirais de faire, il y a des choses que je choisirais de ne plus faire. Il y a des gens avec qui je choisirais de me tenir, et il y a des gens avec qui je choisirais de ne plus me tenir. Il y a des choses que je choisirais de regarder, et il y a des choses que je choisirais de ne plus regarder. Allô, quelqu'un ? Bip, 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 allô, quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, alléluia. Oh, merci Jésus. Littéralement, dans le grec, ça parle de souffrir de la soif. Si quelqu'un souffre de la soif, waouh. J'avais soif, j'ai juste soif. Ça parle de souffrir. Si quelqu'un souffre de la soif, il y a un truc au fond de toi qui te dit, ça ne se peut plus cette vie, ça ne se peut plus tourner en rond comme ça, ça ne se peut plus tourner en rond dans ce péché, ça ne se peut plus de me faire avoir encore, ça ne se peut plus de me faire voler encore si souvent, trop souvent mon temps, ça ne se peut plus, il y a un truc au fond de moi qui gémit, il y a quelque chose au fond de moi qui dit, ça, stop, il y a un truc qui souffre là, si quelqu'un souffre de la soif, ressentir un douloureux besoin. Alléluia, Seigneur. Ta parole, elle est toute suffisante, elle est extraordinaire, la parole de Dieu. Que personne ne me dise qu'elle n'est pas intéressante. Que personne ne me dise qu'elle vaut d'être négligée. La parole de Dieu, elle est extraordinaire, mes amis. On y trouve tout pleinement. Si quelqu'un ressent un douloureux besoin, si quelqu'un ressent à l'intérieur un douloureux besoin, Jésus est en train de dire à cette foule ce jour-là, c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire à cette foule alors qu'il se lève et qu'il crie d'une voix forte, il dit, si quelqu'un parmi vous souffre à l'intérieur, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a un douloureux besoin là à l'intérieur, Jésus il dit avec ses tripes, c'est pour ça qu'il dit d'une voix forte, c'est pas juste qu'il a envie d'être écouté, c'est parce qu'il y a un truc à l'intérieur de lui qui dit, il y en a qui souffrent, j'en peux plus de vous voir souffrir, j'ai une autre vie pour vous, j'ai une autre espérance pour toi, j'ai un autre chemin pour ta vie, ça suffit, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Il ressent ça profondément à l'intérieur de lui. Jésus souffre pour ceux qui sont dans la douleur. Jésus souffre pour ceux qui souffrent, mes amis. Alléluia. Jésus est en train de dire à cette foule, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est là, qui ressent un douloureux besoin? Je suis là. Si tu as soif d'autre chose que cette souffrance permanente dans ta vie, je suis la solution. Je suis l'unique solution, il n'y en a pas d'autre. Je suis ta solution. Et aujourd'hui encore, mes amis, ces paroles résonnent encore aujourd'hui, ici à Lézin, au mois de septembre 2023. Ces paroles, elles résonnent encore au milieu de nous. Si quelqu'un a soif, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ressent un douloureux, quelque chose qui devient carrément un besoin douloureux, j'en peux plus. Je veux quelque chose de plus de toi, Seigneur. Ça suffit de tourner en rond dans ma petite vie chrétienne. Je sais qu'il y a plus, j'ai soif de plus, Seigneur. Et il est là pour toi. Il te dit exactement la même chose. C'est comme s'il était ici, qui se levait au milieu de nous et qui te criait la même chose. Si tu as soif, est-ce qu'il y a quelqu'un ici Église de réveil de Martigny, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, Église de réveil de Vevey, qui dit, moi, j'ai soif de quelque chose. J'ai soif de plus de Jésus. J'ai envie de marcher sur un autre chemin, ce chemin de lumière. J'ai envie de marcher sur ce chemin-là, le restant de ma vie. Alléluia. Une soif de quelque chose de plus. Mon âme a soif du Seigneur Jésus. Comme jamais, mes amis. Approche-toi de lui ce matin. Ce soir plutôt. Approche-toi de lui. Il est notre unique espoir, mes amis. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Le monde doit savoir. Le monde, quand il voit ta vie, quand il verra ta vie, il doit savoir. Il saura, il verra alors. Ça se voit un chrétien qui brille, mes amis. Ça se voit un chrétien qui est terne. Ça se voit un chrétien qui brille, mes amis. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Une soif de quelque chose de plus. Reconnais-le comme le véritable Seigneur de ta vie. C'est fini, Jésus le prophète. Ça suffit, Jésus le prophète. Jésus le Messie, le Oin, mon tout, mon essentiel. Jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Laisse-le remplir. Laisse-le te remplir de son eau vive. Et là où il y a eu de la peine et de la tristesse, là où il y a eu de l'accablement, il y aura une joie surnaturelle dans sa présence, mes amis, en toi. Là où il y a des blessures et des déceptions, des trahisons qui t'empêchent de pardonner, tu trouveras la force de pardonner avec un repos de l'âme qui va avec. Là où il y a eu de la colère, de la haine, il y aura une paix, une douceur qui prendra place dans ta vie. Là où il y a eu des combats intérieurs, il y a une force renouvelée pour faire face à la tentation qui va te prendre place en toi. Parce que tu ne considéreras plus Jésus comme un prophète, comme un simple prophète. Comme quelqu'un qui dit des choses bien. Comme quelqu'un qui a de la sagesse. Non. Comme quelqu'un, celui à qui tu donneras le droit de venir dans chaque recoin de ta vie pour te transformer, pour te transformer à son image, pour te corriger s'il le faut, te guérir, pour détordre peut-être ce qui était tordu dans ta vie, ce qui était mal compris, mal vécu, mal interprété, et pouvoir t'enraciner pleinement en lui, ça change tout. Ça changera tout, mes amis. On a besoin de passer, mes amis, de Jésus. Comme un grand parmi les grands, à Jésus mon Seigneur. Seigneur. Ce mot-là, il est galvaudé aujourd'hui. Seigneur à tous les coins de phrases dans nos prières. Seigneur, c'est-à-dire qu'il règne. Il règne sur tout, tous les recoins. Seigneur, mon Messie, mon tout. Le centre de ma vie. Et c'est ce que Jésus était en train de dire à cette foule rassemblée, à cette fête de Soukhot, pendant cette fête-là. C'est moi, je suis le Messie, c'est moi. Et ces paroles résonnent encore aujourd'hui, mes amis, 2000 ans plus tard, elles résonnent encore aujourd'hui. Mes amis, je me rappelle, lorsque j'étais en Israël la dernière fois, je me rappelle qu'on est allé faire un petit trek dans le désert de Judée. Et on est parti, et je me rappelle d'avoir été au milieu de ce désert rocailleux de partout. On marche au milieu des rochers, comme ça. À un moment donné, notre guide, il nous arrête et il descend et il se baisse et il ramasse une petite graine. Il dit, approche-toi, viens. Je m'approche de lui, il met la graine dans le creux de sa main, comme ça. Il prend sa bouteille d'eau, il verse de l'eau dans le creux de sa main, donc ça remplit le creux de sa main, la graine baigne dedans. Et on attend. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Je dis, tu me fais marcher. Au bout de 30 secondes, j'entends pouf, un arbre. Non, c'est pas vrai. J'en ai vu qui ont eu peur. Ils se sont dit, T'as vu ? Je l'entends craquer dans ma main et ça s'ouvre, il y a une fleur qui sort. Wow, une fleur qui s'ouvre, les pétales qui s'ouvrent. Je dis, waouh ! T'as des pouvoirs, un truc de fou, le guide en Israël. Il me dit, non, regarde, ça se passe comme ça quand la pluie tombe sur le désert refleurit. Je dis non. Il prend son téléphone, il me montre une image. Je dis regarde, ça c'est, regarde, c'est le même endroit, on est là. Regarde quand il pleut. Des fleurs de partout, des couleurs incroyables dans ce désert un peu monochrome comme ça. Des fleurs de partout. Ceux qui sont dans le jardin d'Israël, vous le savez. Incroyable, mes amis. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que Jésus a les capacités de faire refleurir un désert. De faire refleurir le désert dans ta vie, peut-être. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as vécu une vie, tu sautais du coq à l'âne un petit peu, tu appuyais sur le bouton quand tu avais besoin, Jésus prophète, etc. Et tu te dis, mais comment il va pouvoir me ramener? Comment il va faire? Pose-toi même pas la question, il a les capacités de le faire. S'il est capable de faire refleurir un désert, il est capable de faire refleurir ta vie, il est capable de créer un miracle à l'intérieur de toi, mes amis. Jésus a les capacités de faire couler des fleuves d'eau dans le désert d'une vie, mes amis. Il est capable de faire pousser des fleurs dans la rocaille. Que tu sois loin de Dieu ou que tu sois un chrétien de longue date, il est celui qui fait couler une huile de joie sur ta vie au lieu du deuil. Il est celui qui peut te faire sortir des choses qui t'emprisonnent, qui te pourrissent la vie. Il est celui qui peut être avec toi au milieu de ta tempête et te donner les forces pour en sortir. Et des fleuves d'eau vive jailliront de toi-même. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire, mes amis. Regardez ceci. Pendant les 7-8 jours que durait cette fête de Soukhot, il y avait, au milieu de toutes sortes de cérémonies, ça durait 7-8 jours, les journées passaient, et il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, il y avait des chants, etc. Il y avait, au milieu de toutes ces cérémoniels, une cérémonie rituelle quotidienne, tous les jours. Tous les jours, les Juifs partaient en cortège depuis le temple, et ils se rendaient à la source de Guillon. Ils se rendaient à la source de Guillon, un peu plus bas, et ils y allaient en procession, et le sacrificateur était là. Lorsqu'ils arrivaient à cette source, le sacrificateur plongeait une jarre d'eau, une cruche d'eau, dans la source de Guillon, et la foule chantait. Et la foule chantait le texte d'Ésaïe 12. Elle chantait, je lis une portion de ce chant qu'il chantait. On n'a pas la mélodie qui va avec, mais on a le texte. Il chantait Ésaïe 12, verset 3, ça dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et vous direz en ce jour-là « Louez l'Éternel, invoquez son. » Imaginez-vous le souverain, le sacrificateur qui plongeait la jarre dans cette une fois par jour, et la foule qui est autour et chante cela. Et vous direz en ce jour-là, louer l'Éternel, invoquer son nom, publier ses œuvres parmi les peuples, rappeler la grandeur de son nom, célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et il chantait ça alors que le sacrificateur plongeait sa cruche d'eau dans cette source. Et puis, il remontait vers le temple pour verser l'eau à l'autel. Waouh ! Tous les jours, il faisait ça. Jour 1, jour 2, jour 3, tous les jours il faisait ça. Et évidemment ce geste était un geste symbolique qui rappelait à tout le peuple comment Dieu avait fait jaillir l'eau du rocher pour les abreuver dans le désert. Lorsque Moïse, avec Moïse, et pendant que le peuple d'Israël errait dans le désert, il a toujours pris soin d'eux. Ils ont pu boire partout où ils allaient, que Dieu s'était occupé d'eux à chaque étape de leur vie. Alors, à la fin de cette fête de Soukhot, lorsque Jésus fait référence à cette eau vive qui jaillira à l'intérieur de nous, les Juifs savaient très bien de quoi ils parlaient. Ils savaient très bien, ils chantaient Ésaïe 12, ils savaient de quoi ils parlaient. Ils avaient parfaitement conscience de ce à quoi ils faisaient référence. Et depuis le début de cette semaine, chaque jour, ils vont puiser aux sources, à la source de Guillon. Ils vont puiser là et ils vont la répandre sur l'autel en chantant « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Ils chantaient « Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël ». Quelle pensée extraordinaire, mes amis, que alors que tous ces Juifs accomplissaient cette cérémonie, Jésus va laisser passer toute la semaine, qu'il soit bien imprégné de ces choses-là, parce qu'ils l'auront fait tous les jours, jour 1, jour 2, jour 4, jour 5, jour 6, et le septième jour, il est là, il attend la fin de la semaine, d'avoir vu ce rituel, d'avoir bien conscience de tout ça, et à la fin de la semaine, il se lève debout, c'est là qu'il se lève debout au milieu d'eux, et il va dire, regardez, cette source c'est moi, cette eau de vie dont vous avez besoin, c'est moi, si quelqu'un souffre douloureusement de la soif, si quelqu'un a un besoin douloureux à l'intérieur de vous, je suis, qu'ils viennent à moi, qu'ils boivent, dans le désert de ta vie, je suis ta source. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Dans le désert de ta vie, je suis ta source, je suis celui qui peut te rafraîchir, qui peut te remplir véritablement. Laissez-moi être la source de chaque aspect de vos vies. Laissez-moi vous remplir et faire jaillir dans vos vies toutes sortes de belles choses qui viennent de moi et que vous ne pouvez pas produire par vous-même. Laissez-moi faire, venez à moi, laissez-moi faire, ta vie sera plus jamais la même. Ta vie sera plus jamais la même. C'est ce qu'il disait à cette foule et c'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, en septembre 2023, ici à Lézun, mes amis. Ça résonne. Sa voix résonne, le Saint-Esprit fait résonner cette voix encore au milieu de nous, elle est si vivante au milieu de nous, il est si vivant au milieu de nous. Il a encore les capacités de faire jaillir dans nos vies, de nos vies, des eaux surnaturelles qui viennent de lui, des capacités qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont celles de Dieu en nous. Mes amis, quelle grâce, quelle grâce. N'allons-nous pas y puiser ce soir ? J'aime bien dire à tous ceux et celles qui sont fatigués ce soir, Dieu a les ressources surnaturelles pour toi, pour ta situation, pour ton couple, pour ta famille, pour tes enfants. Il a les ressources, fais-lui confiance. Fixe tes yeux sur lui. Ne baisse pas les bras. Il n'a pas terminé l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie, dans ta famille. Il n'a pas terminé. Amen. Et toi qui traverses une tempête, qui traverses peut-être des épreuves en ce moment, il y a comme peut-être un douloureux besoin qui se fait sentir en toi et tu te demandes si tu auras la force de passer au travers. Jésus, celui qui se lève devant toi ce soir, et qui te dit d'une voix forte pour que tu puisses bien l'entendre, être sûr que des voix intérieures que tu laisses trop souvent te parler disent « Non, ce n'est pas pour toi, non, ce ne sera pas possible, non, ça fait trop longtemps, non, ça fait trop mal. » Il crie assez fort pour que tu puisses l'entendre. Alléluia. Et il proclame « Si tu as soif, si tu as une souffrance, si tu souffres de la soif, que ton besoin s'est fait douloureux, viens à moi, j'aimerais faire couler ma vie dans toi, repose-toi en moi aujourd'hui, mes amis, faisons-le, alléluia. Peut-être certains ont déjà entendu cette histoire, je vous la raconte. Ça se passe en 1942, dans les rues de Paris, un jeune homme qui a 20 ans, travaille à l'usine. C'est la guerre, c'est l'occupation. Les Allemands envahissent la ville de Paris, sont là partout, avec toute la pression que ça engendre. Il y a eu des rafles, de nombreuses rafles déjà. Les fours crématoires brûlent un peu partout. Et il est fiancé, il travaille fort à l'usine. Il part le matin, il fait nuit, il rentre tard le soir, il fait des 15 heures, des 18 heures de travail. C'est harassant. Et un jour, alors qu'il a terminé sa journée de travail, il sort, il met son manteau. Et en sortant de l'usine, il y a deux soldats qui l'attendent, ils l'attrapent par les bras. Et hop, ils vont l'emmener gare de l'Est. Il va se retrouver là, il y a plein de gens qui sont là. Il va se faire pousser littéralement, jeter dans un wagon à bestiaux. Il y a des gens qui sont entassés déjà là, il y a des gens debout, des gens qui pleurent, des gens qui gémissent, qui ont peur. Ils savent sans savoir. Et puis, ce qui va leur arriver, les portes du wagon se ferment quand il est plein. Et une fois que le train est plein, que chaque wagon est plein, le train se met en route et puis se met à rouler. Il roule toute la nuit et au petit matin, il arrive en plein milieu de l'Allemagne. Et les portes du wagon s'ouvrent en métallique et des soldats allemands font descendre les prisonniers à coups de crosse de fusil. Il va se retrouver là, dans ce camp, à Hanovre, pour les 3 prochaines années de sa vie. C'est l'histoire de mon grand-père paternel. Je me rappelle quand j'étais gamin, comment ce qu'on allait rencontrer, mon pépé en France, il nous racontait les histoires de sa vie. Il nous a raconté les histoires de l'Allemagne, il nous racontait l'histoire du camp. Et j'étais fasciné, j'avais 8, 10, 12 ans. Je l'écoutais la bouche ouverte à table, il nous racontait des heures, il nous racontait les bombardements alliés qui bombardaient l'Allemagne et qu'ils se cachaient quand ils entendaient les sirènes, ils se cachaient dans les trous d'obus parce qu'ils se disaient la probabilité qu'un obus tombe aux deux fois au même endroit, voilà, donc qu'ils se cachaient dans les trous d'obus, ça tombait autour de lui. Je me rappelle, il racontait une fois qu'il s'était caché dans un trou, les bombardiers passaient, c'était les Anglais qui bombardaient l'Allemagne, passaient au-dessus d'eux et ça bombardait partout autour et qu'il s'était caché là. Lorsque tout le monde est passé, il sortait la tête. Et il y a des copains qui étaient dans les autres trous d'obus comme ça, qui sortaient la tête. Ça va, toi, je regarde si j'ai encore un bras. Et ils sortaient de là comme ça, ils avaient des cailloux dans la bouche, ils sortaient de là. Ils voyaient une ferme allemande qui brûlait derrière, en dehors du camp, quoi. Et il appelle deux, trois prisonniers avec lui, au péril de leur vie, ils descendent sous les barbelés du camp, ils passent sous les barbelés du camp, ils sont allés aider le fermier allemand à éteindre le feu de sa ferme, quoi. Et ils sont repartis avec des patates, des pommes de terre, ils ont partagé entre les détenus, incroyable. Il n'a raconté qu'une fois, les bombes qui tombaient, c'était tellement violent qu'une fois, il est tombé sur un wagon, il y avait des wagons qui transportaient toutes sortes de choses, des rails qui arrivaient dans ce camp, un obus est tombé sur un des wagons du train, quoi. Le wagon, il a sauté, il est monté dans les airs et il est retombé sur un bâtiment. Boum, il est tombé, bam, 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 tous les étages du bâtiment jusqu'en bas, quoi. Ils étaient là, ils voyaient ça, ils étaient cachés dans leur trou de fou. Et moi, j'étais petit garçon, et j'écoutais mon pépé nous raconter toutes ces choses-là. Et je dis, waouh, pépé, mais qu'est-ce qui t'a fait tenir? Tu racontes ça, on dirait que t'as pas de poids. Normalement, tu devrais raconter ça avec de la haine. Tu devrais nous raconter. Si tu racontes ça, on dirait que c'est y a pas de poids sur ton cœur, pépé. Comment ça se fait là? Moi, tu me racontes ça, j'ai envie de la haine qui monte. Comment faire des choses aussi terribles que ça à l'humanité? C'est pas possible. Et là, il s'arrête. Il me regarde dans les yeux, je me rappelle comme c'était hier, il est auprès du Seigneur maintenant. Je me rappelle comme si c'était hier, il me regarde, il me dit, attends ici, Mathieu. Il part dans sa chambre à coucher, il revient avec un petit bouquin, la moitié de ça, tout fripé comme ça, tout jauni. Puis il le pose devant moi, je l'ouvre, c'était un Nouveau Testament. Il dit, quand les Allemands m'ont attrapé à la sortie de l'usine à Paris, j'avais réussi à glisser ça dans la poche intérieure de mon manteau. Ils ne l'ont pas trouvé. Je l'ai pris avec moi, je l'ai gardé précieusement. Et lorsque le soir, on éteignait, il y avait le couvre-feu, on éteignait les lumières dans les baraquements, moi j'allumais ma petite bougie et je m'entretenais des choses de Dieu. Je passais du temps dans la présence de Jésus. Il me soutenait. Je m'abreuvais à la source, il me soutenait, je le voyais, il me racontait ça, il tremblait comme ça avec son petit testament devant moi. J'étais là, je l'écoutais comme ça, moi, 10-12 ans. J'ai dit, waouh, c'était comme une leçon de vie, c'est comme un héritage que je prenais. C'est comme, waouh, Seigneur. Et il dit, j'ai commencé à avoir des questions autour de moi, les co-détenus qui étaient là. Ils disent, qu'est-ce que tu lis là, la nuit, t'allumes ta petite chandelle là, qu'est-ce que tu es en train de lire de ça? Il dit, j'ai commencé à parler de Jésus autour de moi, à un, à l'autre. J'ai commencé à être touché par Dieu, à donner sa vie à Jésus, à un autre, puis à un autre. On s'est retrouvé un petit groupe de maison dans le baraquement. On s'entretenait des choses de Dieu, on prie ensemble, et puis un autre devient un autre, à 8, et puis 10, et puis 15, et puis on se retrouve ensemble le soir, on prie ensemble, on passait du temps dans la présence de Jésus, mais rien d'autre, on ne savait pas comment tout ça allait se terminer, on ne se faisait pas d'illusions, mais on avait tout, on avait Jésus, on avait tout, on avait Jésus, on était emprisonné, mais on était libre, on avait Jésus, alléluia, merci Jésus, alléluia. Et puis, un jour, après 3 ans, ils ont entendu les Américains arriver, sur l'Ouest, et les Russes libéraient à partir de l'Est. Et puis donc là, Hanovre, c'était sur l'Ouest. Donc les Américains ont libéré le camp. Et je m'appelle qui m'a raconté comment ce jour, quand les prisonniers ont réalisé que tout à coup, ils étaient libres. Waouh, toute cette haine. Toute cette souffrance cumulée, quoi. J'en ai vu, là, j'ai passé du temps, passé 3 ans avec eux, quoi. Dès qu'ils n'étaient pas dans notre groupe... qui avait accepté Jésus, à chercher partout s'ils arrivaient encore à mettre la main sur un de ces gardes SS là. Ils en ont trouvé un, ils l'ont roué de coups jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Je monte la haine tellement jusqu'à ce qu'il meure. Et il dit, je les regardais, je ne pouvais pas faire comme eux, je ne pouvais pas. Ils étaient libres, mais ils étaient encore prisonniers. prisonniers de leur haine, prisonniers de tout ça. Et moi, j'avais été prisonnier 3 ans, mais j'ai jamais été en prison. J'étais libre. C'est parce qu'on a Jésus dans nos vies. J'avais Jésus dans ma vie, j'étais libre. Waouh! Il est rentré sur Paris. Il a marié sa fiancée, c'est devenu ma grand-mère. Et il a dû retourner parce qu'il avait la tuberculose. Donc il pesait 40 kilos. Et il y avait un endroit où on soignait bien la tuberculose à cette époque-là. C'était en Forêt-Noire. Ouais, alors dans les Alpes aussi, ouais. Mais en Forêt-Noire en particulier, en tout cas, c'est là qu'on lui a conseillé d'aller. Docteur Mel, tu retournes là, chez les Allemands. Hein? Il n'y a qu'un cœur qui est guéri qui peut vivre ça. Hein? Il y en aurait qui auraient dit jamais de la vie, je préfère mourir. Mais il était libre. Jésus était pleinement là dans sa vie. Il y est retourné. Savez-vous quoi? Incroyable cette histoire, incroyable. Aujourd'hui, je suis à Paris, je marche sur les rues où il habitait, tout ça. Je fais des FaceTime avec mon père. Je dis, papa, regarde, devine où je suis. Regarde, là, Pépé habitait, rappelle-toi, ici, à Paris. Incroyable. En fait, quand il était dans ce camp, c'était un camp de travail. C'était pas un camp de concentration ou un camp d'extermination. C'est un camp de travail. Tous les hommes allemands étaient sur le front à la guerre et du coup, il manquait de main d'œuvre. Donc, ils prenaient des jeunes hommes français et puis ils les amenaient dans des camps. Quoi. Alors, les conditions, hein, c'était un camp de travail, mais ils voyaient des gens mourir tous les jours. Hein. Il y en a qui se prenaient une balle dans la tête, et puis il y en avait d'autres qui mouraient des mauvaises conditions d'hygiène, de santé, de maladie, de froid, de tout ce que tu veux. Quoi, tu vois. Donc, les conditions étaient terribles quand même. Quoi. Mais lui, il était dans l'usine tous les jours. C'était une usine en Allemagne qui avait une technologie de pointe en termes de... C'était des batteries spéciales qui fabriquaient, je sais pas, du lithium. C'était une technologie révolutionnaire à l'époque. Et donc lui, il avait son petit calepin et à force de... Il parlait avec les Allemands un peu, il a commencé à baragouiner un peu l'allemand. Et puis il s'est mis à son petit calepin à noter tout ce qu'il voyait, des trucs secrets défense. Il notait les trucs dans son petit calepin, tu vois. Tac, 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 il a rempli un calepin de notes comme ça. Et quand il a, à la libération, quand il est retourné sur Paris, après avoir été soigné en Forêt-Noire, et puis qu'il a retrouvé une santé, et que la tuberculose était derrière, il est rentré sur Paris, il a marié sa fiancée, et il s'est pointé dans une usine à Paris de fabrication de batteries. Et il a dit, je postule. Le gars lui dit, comment, Monsieur Bléry, vous postulez pourquoi? Montrez-moi votre CV. Il dit, c'est parce que, voilà mon CV. Pac, il pose son petit carnet de notes. Et là, le directeur, il prend ça, il comprend pas, quoi. Il voit le petit carnet de notes, toujours ni, etc. Puis il commence à feuilleter le truc. Puis là, mon pépé, il lui racontait, il lui expliquait les trucs en parallèle, quoi. Et donc, il avait appris l'allemand. Hein. Quand il est sorti de ses 3 ans, il parlait l'allemand. Quand je lui ai présenté Nicole, suisse-allemande, direct, il s'est mis à lui parler allemand. Elle n'a rien compris, il avait un accent à couper au couteau, en fait, il était libre. Il n'était pas pris par de l'amertume, rien du tout. Jésus dans sa ville, l'avait rendu libre, mes amis. Jésus est extraordinaire dans nos vies, mes amis. Même dans nos vallées, dans nos souffrances, il est extraordinaire, mes amis. Alors le gars, il a feuilleté le truc, il dit, je vous engage, Bléry. Tac, hop, il l'a engagé. Ils ont commencé à fabriquer, ils ont pris des notions de trucs. Ils ont dit, on va modifier ça sur nos batteries, etc. Et puis il a gradé, il est devenu chef, il est devenu sous-chef, il s'est retrouvé dans la direction de l'entreprise. Incroyable, il a fait fortune, mon pépé. Incroyable, vraiment. Il s'est acheté une maison à Cannes, il s'est acheté une maison sur le bord de l'océan Atlantique et tout ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y en a d'autres qui ont tout dilapidé entre deux, mais j'ai rien hérité, moi. C'est ça, faut dire. Mathieu, il est riche et tout. Non, t'inquiète, je suis pas riche. Mais incroyable, comment Dieu est, mes amis. Incroyable, comment Dieu est, mes amis. J'ai beau vous dire, si tu choisis de t'abreuver à la source. S'il y a un douloureux besoin qui se fait sentir à l'intérieur de toi, qui dit « Je veux vivre cette vie avec lui, je veux vivre ces merveilles avec lui, et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je marche avec lui, je m'abreuverai encore à lui, je puiserai encore à lui, j'en ai tellement besoin, chaque jour de notre vie, mes amis, alléluia !» Amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête ensemble, je termine. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce soir et qui disent ça suffit? J'ai soif de quelque chose. J'ai soif de quelque chose, un peu plus encore de Jésus, tellement plus de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui disent, oui, je le sens, il y a un truc qui c'est vrai, si je le regarde vraiment, je l'ai trop longtemps enfoui là, mais si je regarde vraiment, il y a un truc qui fait mal, il y a un douloureux besoin. Je ne vais plus avancer cette vie avec mes propres forces. Je sais où ça me mène. Seigneur Jésus, je t'entends me le dire ce soir. Si quelqu'un souffre de la soif, moi, Seigneur, ce soir. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Proche de toi encore plus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Qu'il vienne à moi. Viens à lui. Je t'en supplie, viens à lui, pour de vrai. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bois, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, demain, bois, mon frère, ma sœur. Alléluia, Seigneur.